13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé, bienvenue et heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine santé avec mon invité aujourd'hui, le professeur Frédéric Adnet. Bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des urgences du CHU Avicenne et du SAMU 93 et vous avez coécrit « Y a-t-il urgence, fièvre, malaise, douleur, reconnaître les situations d'urgence médicale » aux éditions Flammarion. Alors autant dire tout de suite, c'est un livre pratique, très pratique. Oui.
Oui, avec Sandrine Trouvelot, on a voulu écrire ce livre pour répondre en fait à un double objectif. Je suis médecin urgentiste et puis il n'y a rien de plus frustrant comme urgentiste que de voir des patients que l'on découvre dans des états catastrophiques, voire en arrêt cardiaque parce qu'ils ont négligé un symptôme, un petit signe qui leur apparaissait pas très grave. Ils se disaient ça va passer et finalement ce petit signe, ce petit symptôme, cette petite caractéristique d'un symptôme qui pouvait pas apparaître comme bénin, eh ben c'était un infarctus, c'était un accident vasculaire cérébral. Et malheureusement, on a les moyens de guérir ces patients-là, on arrive trop tard. Et l'autre objectif, c'est l'inverse. C'est des patients qui ont pas grand-chose.
Allez, on prend un exemple, la gastro. Oui.
La gastro, voilà, une petite diarrhée sans signe de gravité et qui vont tout de suite, qui s'affolent et qui vont aux urgences et qui participent un petit peu à l'encombrement des urgences. Alors on a voulu, avec Sandrine Trouvelot, énumérer un petit peu tous ces symptômes et donner les moyens aux gens, aux patients, de pouvoir un petit peu faire le tri dans les symptômes pour savoir ce qui pouvait être grave et alors là, vite, appeler le 15, aller aux urgences ou alors finalement, ces symptômes, la grande probabilité, c'est que c'est pas grand chose et on va éviter d'aller aux urgences, on va appeler son médecin.
Alors, on l'a vécu il y a pas très longtemps avec un invité qui était là, qui a fait un malaise en direct. Et le jour où ça arrive, bah, figurez-vous, vous êtes jamais prêt. Parce que quand ça arrive, et on n'est pas préparé à ce qui va se passer. Donc, il y a quand même un petit moment de panique. Qui on appelle? On appelle le 15 ou on appelle le 18?
Alors, dans ce livre, justement, on donne quelques conseils, comment prendre en charge, justement, ce type de malaise, comment reconnaître si le malaise est grave et pas grave. Et surtout, c'est pas tellement qui a appelé. On appelle le 15, bien sûr, on fait le 15, on appelle le SAMU, on va voir un médecin en ligne. Mais ce qui est important quand vous appelez le 15, c'est de bien décrire les signes et de savoir ce qu'il faut dire et de connaître un petit peu le cheminement de l'appel. Et maintenant, dans ce livre, on a fait un chapitre sur justement qu'est-ce que vous allez dire au secours pour pouvoir donner les moyens au médecin de déclencher un secours qui soit adapté à la gravité du patient.
Et nous, on avait quelqu'un bon, qui pensait qu'il allait mourir dans la demi-heure. C'était juste une attaque de panique. Mais par contre, c'est drôlement long. Hein. Entre le moment où vous appelez et le moment où on va vous orienter, bah, vous vous dites que vous pouvez mourir 20 fois. Hein.
C'est très très long. En fait,
quand on a l'impression d'être en urgence, je vais vous dire que tout paraît long.
Exactement. Si vous voulez, l'échelle des temps se dilate quand on est un petit peu paniqué, quand on est anxieux. Mais quand on regarde le chronomètre, on s'aperçoit, et c'est le cas un petit peu dans tous les SAMU, que 90% des appels sont répondus en moins de 60 secondes. C'est-à-dire il y a un décroché en moins de 60 secondes. Alors ce qui peut paraître long quand on a l'impression qu'une personne va mourir ou que c'est une urgence absolue, la première chose à faire, c'est de donner son adresse. Parce que on peut avoir un arrêt cardiaque, mais si on ne sait pas où on va, le patient il va mourir. Donc la première chose à faire, et souvent les témoins nous disent, mais on va pas perdre son temps à vous donner notre adresse, venez vite. Oui, mais venez où?
Mais moi je croyais, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pensais que l'appel était géolocalisé et qu'immédiatement la personne qui vous répondait savait d'où vous l'appeliez.
L'appel est effectivement géolocalisé et l'appel, on a un annuaire inversé, c'est-à-dire que l'adresse apparaît sur les écrans lorsque vous faites le numéro. Sauf que quelquefois, nous il nous faut une adresse extrêmement précise,
oui,
le code d'entrée de l'immeuble, l'étage, le numéro de la porte. Quand c'est dans une cité, on a quelquefois beaucoup de mal à arriver sur les lieux de la détresse. Donc oui, l'annuaire inversé, la géolocalisation aide, mais on a besoin de détails très précis comme le code de la porte.
Plus personne n'a de téléphone fixe aujourd'hui. Tout le monde vous appelle depuis un portable.
Bien sûr, mais on géolocalise les portables.
Ah oui, donc ça c'est quelque chose qui... Est-ce que les urgences aujourd'hui portent bien leur nom? Est-ce que finalement, quand on va aux urgences, moi je suis entouré que de gens qui disent « Ah non, je suis allé aux urgences, j'ai attendu 4 heures, 6 heures. » Ben dis donc, t'as pas intérêt à être mourant. Est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est la vérité?
C'est un ressenti. C'est un ressenti car on peut pas parler d'attente aux urgences comme on attend, si vous voulez, dans une file pour dans un grand magasin, dans une grande surface. En fait, l'attente aux urgences, elle est stratifiée, elle est triée en fonction de la gravité. Si vous arrivez avec une urgence absolue, un arrêt cardiaque, un infarctus, un accident vasculaire cérébral, vous allez être pris dans les secondes qui suivent.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'urgence absolue.
C'est l'urgence absolue. Là, il y a un cheminement du patient qui fait qu'il sera tout de suite pris en charge. Si vous venez parce que vous avez une démangeaison, une rougeur, un petit peu mal à la gorge, là, il est sûr que vous passerez après les urgences absolues. Si vous voulez, l'attente, c'est pas le premier qui arrive qui est servi. L'attente est déterminée en fonction de la gravité des symptômes que présente
le
patient.
Donc, il y a un triage, hein, il y a un orientateur qui finalement, c'est lui qui dont le travail sera de déterminer quel est le degré d'urgence, en fait.
C'est l'étape fondamentale de tous les services d'urgence. Nous avons du personnel, une infirmière, quelquefois un médecin qui est dédié à faire ce tri rapidement. On prend les fonctions vitales et on regarde un petit peu les symptômes du patient. Si c'est très grave, il passe tout de suite. S'il peut attendre, eh ben il va un petit peu attendre. Mais en général, dans les urgences en France, le médecin vous voit dans les 2 heures.
Est-ce qu'il y a
une urgence qui n'est pas vitale.
Est-ce qu'il y a des statistiques, professeur Adnet, sur les gens qui auraient dû aller aux urgences et qui en sont morts et les gens qui ont rien à y faire? On a une idée de l'ordre du pourcentage?
Mais écoutez, pour la deuxième question, le nombre de patients qui auraient eu la vie sauvée si un médecin urgentiste était arrivé avant les symptômes, mais il faut savoir qu'en France, par exemple, nous avons 50 000 morts subites, c'est-à-dire d'arrêt cardiaque inopiné chez des patients qui sont quelquefois jeunes, voire très jeunes, et pour lesquels on aurait pu peut-être déceler des symptômes avant-coureurs, avant qu'ils présente l'arrêt cardiaque. Il faut savoir que quand on fait un arrêt cardiaque, une mort subite, on n'a que environ 5 à 8% de chances de s'en sortir sans séquelles.
Oui, donc le temps, mais alors, il faut vraiment l'évaluer, c'est à la seconde près, quoi.
Tout à fait. La médecine d'urgence, c'est la médecine du temps. On a, bien sûr, comme tous les autres spécialités, nos signes cliniques, nos maladies, etc. Mais ce qu'on a en plus des autres pathologies, c'est que nous, on a une contrainte, c'est le temps. C'est-à-dire que notre efficacité, elle est déterminée en minimisant le temps, notre temps d'intervention.
Vous dirigez le SAMU aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, SAMU?
C'est le service d'aide médicale urgente, SAMU. Ce sont des services que tous les Français connaissent, le SAMU.
On connaît le nom développé, mais on connaît pas forcément ce que ça veut dire.
Alors le SAMU a 2 composantes essentielles. Le SAMU, c'est d'abord ce qu'on appelle le numéro 15, l'appel au 15. C'est des médecins, des assistants de régulation médicale qui reçoivent l'appel, qui trient les appels, qui déterminent s'il faut déclencher les secours. Et à chaque appel, un médecin va vous répondre. Va pouvoir vous donner des conseils si c'est pas grave. Mais si c'est un arrêt cardiaque, tout de suite, on déclenche les secours et on déclenche les ambulances médicalisées qui sont une particularité du système français.
Et le SMUR alors?
Alors le SMUR, c'est le service médical d'urgence et de réanimation. C'est la deuxième composante, si vous voulez, des services des SAMU. C'est les services qui hébergent les ambulances médicalisées. Si vous voulez, c'est le médecin du SAMU qui va venir chez vous. Dans ces ambulances, vous avez un médecin urgentiste, vous avez une infirmière, quelquefois une infirmière anesthésiste, un ambulancier et souvent un stagiaire, un interne ou un étudiant en médecine. Et toute cette équipe va partir de son SMUR, qui sont localisés dans des hôpitaux, et va venir à votre domicile pour vous apporter toute la technologie de la médecine moderne pour intervenir en cas d'urgence médicale.
Ça fait combien de temps alors? Parce que nous, on a chronométré la semaine dernière, enfin quand c'est arrivé, c'était 20 minutes à peu près. Ça vous paraît...
Alors
nous on était à Charenton. Alors c'est pour ça que ça me paraissait super long, vous voyez.
Alors il faut savoir que en cas d'urgence vitale, le système français est un système à 2 niveaux, ce que les Américains appellent le système à 2 niveaux, c'est-à-dire que on déclenche en premier ce qu'on appelle les prompts secours, les premiers secours. En général, en France, ce sont les pompiers qui arrivent, on va dire entre 5 et 8 minutes au maximum. Ce sont les des secouristes qui vont faire les premiers gestes de réanimation. Par exemple, un arrêt cardiaque, faire du massage cardiaque. Par exemple, quand vous avez un étouffement, ils vont mettre de l'oxygène. Mmh. Mais dans le même temps est déclenché le SMUR, l'ambulance avec le médecin et toute l'équipe qui va partir de l'hôpital et qui va arriver 3-4 minutes après le premier secours.
C'est, donc, pour, c'est, ça qu'ils peuvent, c'est pour ça qu'ils peuvent arriver tous les deux, en fait.
Exactement.
C'est ça, oui.
Exactement. Et c'est un système parfaitement complémentaire. Mmh. Premier niveau, on fait les gestes de premier secours, on maintient le patient en vie.
Donc ça, c'est les pompiers.
C'est les pompiers ou les associations de secouristes comme la Croix-Rouge. Mmh. Deuxième niveau, arrive tout de suite après, parce que tout le monde est déclenché en même temps, l'ambulance médicalisée avec l'équipe hospitalière qui va venir apporter des soins, ce qu'on appelle des soins avancés, des soins de réanimation, de médecine d'urgence pour effectivement donner un diagnostic et commencer à traiter le patient.
Et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, parce que on peut être victime soi-même, mais on peut être témoin soi-même. Et donc finalement, on peut être amené aujourd'hui à aider quelqu'un qui fait un malaise, qui a un malaise vagal, qui tombe dans la rue. Donc là aussi, on devient acteur.
Tout à fait, mais dans ce livre, c'est pas un livre de secourisme, on a qu'un seul chapitre.
Mais c'est dire exactement. Que finalement, un jour, vous pouvez être concerné et voilà.
Comme acteur, et vous pouvez sauver des vies. C'est une grosse difficulté en France par rapport aux pays, par exemple, du nord de l'Europe ou des pays anglo-saxons. On a finalement très peu de témoins, ce qu'on appelle nous les témoins, donc les simples citoyens, qui font les premiers gestes de secours. Alors que c'est ces premiers gestes de secours qui déterminent en fait le pronostic et les chances de survie du patient. Et c'est vrai que lorsqu'on voit un arrêt cardiaque au milieu de la rue, il y a peu de chances en France pour que les témoins massent. Alors quelquefois des touristes américains vont faire le massage cardiaque, mais il y a un grand manque en France. On devrait rendre obligatoire dans toutes les écoles ces cours de secourisme pour augmenter ce pourcentage de témoins qui viennent apporter les premiers secours. Parce que réellement, le temps est compté et pour nous, plus vite on intervient, même avec des gestes de premiers secours, plus grandes sont les chances de survie.
Ça devrait être dans le programme, et y compris en entreprise d'ailleurs.
Tout à fait. En entreprise, il y a des formations secourisme. Dans les écoles, ce n'est pas assez développé. Ce qui a été développé en France, mais ce qui est développé dans le monde entier maintenant, c'est de mettre des défibrillateurs un peu partout. Les défibrillateurs qu'on appelle des défibrillateurs public access, c'est-à-dire que n'importe qui peut les mettre en œuvre. Alors souvent, le public est un peu réticent à le mettre en œuvre. Mais actuellement,
c'est une sacrée responsabilité quand même, hein.
Non, parce que le il vaut mieux défibriller, de mettre un défibrillateur pour rien, parce que le défibrillateur va analyser les choses, va dire va pas se déclencher s'il y a pas de raison de se déclencher. Donc les électrodes qu'on va mettre sur le patient, c'est très facile, il suffit de coller deux gros patchs, va analyser, si vous voulez, le rythme cardiaque, le cœur du patient, et va dire s'il faut choquer ou pas choquer. Donc il y a aucun risque. Le seul risque, c'est en fait un bénéfice, c'est que le patient on va faire repartir le cœur du patient. Mais actuellement, se développent aussi des applications qu'on met sur son smartphone, qui géolocalisent les défibrillateurs, qui géolocalisent des secouristes en temps réel. Et ces applications sont en plein développement, sont en phase d'expérimentation, mais sont en plein développement dans plein de pays, qui nous permettra, si on n'ose rien faire, de rapidement géolocaliser à la fois le défibrillateur, le secouriste, etc.
C'est vraiment utile pour vous. Donc pour vous, c'est vraiment une aide, c'est pas des gadgets, en fait.
Tout ce qui peut réduire les temps d'intervention n'est pas une aide pour nous, est une aide pour le patient, parce que ça va réellement transformer le pronostic.
Bien, on parle de l'urgence médicale. Notez que vous pourrez poser vos questions, si vous en avez, tout à l'heure au professeur Frédéric Adnet. Je rappelle que vous publiez « Y a-t-il urgence ? Reconnaître les situations d'urgence médicale ?» C'est bien utile, c'est un guide pratique aux éditions Flammarion. Et je vous rappelle le numéro du standard, cette fois-ci de Beurre FM, 01 53 48 3000. Vous êtes vraiment servi dans moins de 4 minutes. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Comment reconnaître une urgence médicale ? On en parle avec mon invité, le professeur Frédéric Adnet, qui est chef du service des urgences du CHU Avicenne et du SAMU 93, le SAMU de la Seine-Saint-Denis. Et à noter que c'est le plus important de l'Île-de-France.
Les quatre SAMU, bonjour d'abord. les quatre SAMU d'Île-de-France sont à peu près de la même taille avec une activité qui est comparable, mais c'est vrai que en Seine-Saint-Denis nous avons beaucoup beaucoup d'appels et une activité importante liée au fait que dans ce département il y a en fait peu d'offres de soins de médecine libérale et donc beaucoup de patients ne trouvent pas un médecin généraliste, un médecin à appeler, donc appellent le 15, mais ces appels sont les bienvenus, on répond à ces appels, on donne des conseils quand c'est pas des urgences, évidemment des urgences vitales.
Un mot sur l'hôpital Avicenne qui a été inauguré le 22 mars 1935 sous le nom d'hôpital franco-musulman de Paris. Il a adopté le nom Avicenne en 1978 et il a été conçu par l'architecte Maurice Mantoux, à qui on doit également la mosquée de Paris.
Tout à fait, l'hôpital à Avicenne, quand on en parle un petit peu dans le département, et puis quand l'on voit des vieux Algériens, par exemple, qui viennent dans cet hôpital dans notre département de la Seine-Saint-Denis, ils l'appellent pas l'hôpital Avicenne, ils l'appellent le franco-musulman. C'est un hôpital qui, à l'origine, était dédié justement pour soigner, c'était, je crois, ça devait être de Gaulle qui avait conçu ce projet, qui était pour soigner plutôt les gens de Nord-Afrique, des entre guillemets ce qu'on appelait les colonistes, et pour montrer qu'on s'occupait bien en fait. Et c'est un hôpital qui a été à l'origine extrêmement bien doté en technologie qui à l'époque était des technologies modernes, et c'est rapidement devenu un centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire qu'il y a l'université qui est venue dans cet hôpital, et l'hôpital Avicenne, et ben c'est le centre hospitalier universitaire de la Seine-Saint-Denis, et on en est extrêmement fiers.
Qu'est-ce que les urgences d'un hôpital nous disent de la société dans laquelle on est ?
Ah ben, les urgences de l'hôpital est un miroir, un reflet de la société, et c'est vrai que en fonction de la localisation de l'hôpital, la localisation des services d'urgence, eh bien on dessert et on sert le bassin de population. Alors il est vrai que pour l'hôpital Avicenne, ben on est, si vous voulez, un hôpital situé à Bobigny, au milieu des cités, et nous sommes amenés à soigner donc toute la population de la Seine-Saint-Denis aux alentours de cet hôpital, et donc on retrouve un petit peu les caractéristiques sociales mais aussi sanitaires de la Seine-Saint-Denis qui se caractérise par une très grande précarité, par des nationalités multiples et aussi par un état sanitaire qui est effectivement assez catastrophique, puisque bien souvent les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans des consultations de médecins classiques viennent à l'hôpital, et on retrouve toutes ces populations un peu défavorisées qu'on prend parfaitement en charge, et c'est notre rôle dans le cas des urgences.
Oui, mais il y a aussi des gens qui ont du mal à obtenir des rendez-vous chez un généraliste et qui se retrouve aux urgences aussi pour des pathologies qui ne devraient pas y être finalement.
Alors ça, ce n'est pas qu'à l'hôpital Avicenne, c'est partout en France. On assiste actuellement à une difficulté, à une raréfaction de l'offre de soins de ce qu'on appelait, nous, la médecine traditionnelle française, c'est-à-dire le médecin de famille qui allait à domicile, même le week-end, ce médecin généraliste qu'on pouvait déranger à toute heure du jour et de la nuit. Actuellement, on en a de moins en moins. Il y a une espèce de raréfaction de cette offre de soins, et souvent par facilité sur des pathologies qui, effectivement, sont plus des pathologies de médecine générale, qui sont des pathologies bénignes, eh ben ces patients viennent aux urgences. Alors, bien sûr, on ne les refuse pas, on les accepte. Et pour nous, c'est pas forcément une énorme charge de travail. L'encombrement des urgences, c'est ça, le public ne le sait pas forcément. Pas, oui. C'est pas forcément les patients qui viennent parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ces patients, ils nous prennent pas beaucoup de temps. C'est plutôt les patients, au contraire, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être hospitalisés, et pour lesquels on ne trouve pas de lit à l'hôpital. Et alors, ces patients là nous prennent beaucoup de charges de travail, encombrent les services d'urgence, et c'est un vrai problème d'aval. Les problèmes d'amont, si vous voulez, pour nous, c'est, alors bien sûr ces patients vont attendre un peu plus que les autres, mais pour nous ça nous pose pas énormément de problèmes en termes de prise en charge, en termes de suivi, puisque c'est les patients finalement que l'on va examiner, on va faire un diagnostic, on va leur donner une ordonnance, et ils vont repartir avec leur ordonnance.
Mais est-ce que vous les faites attendre exprès pour qu'ils reviennent pas?
Pas du tout, encore une fois.
Est-ce que ça c'est une rumeur? On dit finalement, on te fait poireauter pour t'expliquer que finalement t'as rien à faire aux urgences.
Non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout la politique des services d'urgence. La politique des services d'urgence, elle est simple. C'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. C'est celui qui a la pathologie la plus grave qui est le premier servi. Donc évidemment, ceux qui ont des pathologies les moins graves, on va bien sûr s'en occuper. Mais une fois qu'on aura évacué tous les patients et pris en charge tous les patients qui présentaient des pathologies extrêmement graves, qui devaient obtenir une sanction thérapeutique très rapidement.
Vous avez déjà fait le planning du 31 décembre ?
Oui, c'est moi qui suis de garde.
Bon. Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier, ces gardes, des fêtes, par exemple, de fin d'année? Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, cette période du mois de décembre, ou finalement c'est comme tout le temps?
Non, bon, j'ai maintenant une trentaine d'années d'expérience, donc des fêtes, j'en ai passé dans les hôpitaux. Alors c'est toujours, d'une part, une ambiance un peu particulière à l'hôpital. On essaie quand même de s'aménager un petit peu de temps de repos avec un aspect un petit peu festif. Ensuite, il y a les patients. Ben, bien sûr, c'est les patients qui viennent aux urgences parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des indigestions, il y a eu des décompensations de maladies chroniques suite à des excès de dû au repas de fête, mais c'est pas forcément le jour de la fête, c'est plutôt le lendemain, voire la semaine d'après, où toute une série de pathologies, par exemple des pathologies cardiovasculaires, peuvent s'aggraver suite à un écart de régime. Par exemple, lorsqu'on mange un peu trop de fruits de mer, et ben on ingurgite beaucoup de sel et on peut déclencher ce qu'on appelle nous l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire une décompensation cardiaque d'une pathologie qui était jusqu'à là bien équilibrée. Donc c'est plutôt du post-fête qui font que les urgences tout d'un coup vont avoir une vague de patients qui ont mal supporté, on va dire, les excès du jour de la fête. Mais le jour de la fête, c'est plutôt de l'accidentologie, de la petite traumatologie.
Ce qui n'est pas traité dans votre livre. D'ailleurs, toute la partie traumatique n'est pas traitée.
Tout à fait. C'est un choix que l'on a fait. Sinon, il aurait fallu faire un bouquin de 2000 pages. Nous avons traité que les urgences médicales. On n'a pas traité les urgences traumatiques.
Donc, 31 décembre, on peut aller aux urgences tranquilles, le personnel n'est pas en train de boire du champagne et en train de faire la fête avec des cotillons.
Non, pas du tout. Alors bien sûr, on essaie d'avoir un moment festif, mais on peut aller aux urgences. On est des services qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en particulier pendant les fêtes. Donc, alors je sais pas si on peut y aller tranquille, parce que quand on va aux urgences, on n'est jamais tranquille. Si on y va, c'est qu'il se passe quelque chose, et en général, on n'y va pas avec un grand sourire, mais il n'y a aucun problème sur la continuité des soins. Dans les périodes de fêtes, on est largement habitué.
Qu'est-ce qu'il faut amener quand on va aux urgences, justement? De quoi est-ce qu'il faut se munir? De quoi est-ce qu'on a besoin?
Alors, lorsque la pathologie est pas gravissime, c'est-à-dire quand on prend le temps d'enregistrer administrativement le patient, il est bien que le patient ait ses papiers d'identité, ait sa carte vitale. C'est pas pour faire un contrôle, c'est simplement que ça accélère parce qu'on va prendre le numéro de sécurité sociale pour créer le dossier du patient, et ça accélère la fabrication du dossier électronique du patient. Mais rassurez-vous, un patient en situation régulière, qui n'a pas ses papiers, etc. Tous ces patients sont bien sûr accueillis aux urgences, dans le cadre des urgences médicales, et sont diagnostiqués, traités et pris en charge.
Qu'est-ce que vous voyez le plus, vos urgences? Quels sont les cas que vous voyez les plus?
Oh, ben écoutez, nous, à l'hôpital Avicenne, on traite toute la pathologie médicale et chirurgicale de l'adulte, donc on ne fait pas les enfants, et on ne fait pas non plus les urgences de la femme enceinte, qui sont dans un autre hôpital, qui appartiennent au même groupe hospitalier. Alors qu'est-ce qu'on fait comme pathologies les plus fréquentes? D'abord, il y a toute la petite traumatologie, les entorses de cheville, toute la traumatologie des membres supérieurs, des membres inférieurs, tous les petits bobos, tous les points de suture qu'on fait, ça c'est du quotidien. Alors au niveau des urgences médicales, on a toutes les urgences, on va dire, abdominales, les douleurs abdominales, c'est très 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 fréquent, mais c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce livre. Une douleur abdominale,
ça peut être complètement bénin.
Mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement grave. Donc il y a des signes spécifiques qu'on sait reconnaître et des examens qu'on sait indiquer pour faire le bon diagnostic.
C'est ce qu'on explique ce matin à l'occasion de la publication de votre livre, professeur Frédéric Adnet, que vous avez coécrit avec Sandrine Touvelot. Y a-t-il urgence? Reconnaître les situations d'urgence médicale, et c'est aux éditions Flammarion.
Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Reconnaître une urgence médicale avec le professeur Frédéric Adnet, qui est notre invité, qui est chef du service des urgences du CHU Avicenne et du SAMU 93 et qui publie « Y a-t-il urgence ? Reconnaître les situations d'urgence médicale ?» C'est aux éditions Flammarion et c'est très bien fait et c'est mieux que tout ce qu'il y a sur Internet. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on trouve tout sur Internet, sauf que vous, vous avez tout recensé. Vous avez évalué la gravité des pathologies en fonction des symptômes. Donc vous mettez pas trop grave, grave et urgence absolue. Et après, il faut regarder où on se situe. Par exemple, si on a mal au dos, on va pas aux urgences.
Alors, la douleur est un motif de recours tout à fait légitime pour aller aux urgences. Une douleur habituelle, une douleur, vous avez une lombalgie habituelle qui vous fait pas trop souffrir, bien sûr, et on le dit dans le livre, il faut pas aller aux urgences, vous pouvez prendre vos médicaments habituels. Mais il faut pas croire que la douleur seule, c'est encombrer les urgences. Au contraire, la douleur, c'est un symptôme d'une urgence qui est quelquefois absolue, parce que les urgences terribles, et on peut l'avoir dans un lumbago, nécessitent quelquefois des médicaments extrêmement puissant comme la morphine pour soulager le patient. Et là, oui, il faut aller aux urgences. Donc, c'est pas parce qu'on a mal qu'il faut pas aller aux urgences. Hein. À l'inverse, quand on a très très mal, c'est une urgence pratiquement absolue et il faut aller aux urgences parce que c'est là où on dispose des drogues, des médicaments les plus puissants pour avoir moins mal. Bien sûr, quand on a mal au dos, en général, ce n'est pas très grave. Mais attention, si cette douleur va dans la fesse, va le long de la cuisse, et si on commence à sentir un petit peu ses doigts de pied, son pied un petit peu paralysé, et ben là c'est extrêmement rare, mais c'est un diagnostic grave d'une urgence extrêmement importante dans le cadre d'une douleur dans le dos qui est la sciatique paralysante, hein, qui est cette fameuse sciatique qui va finir par comprimer le nerf et faire que la jambe va se paralyser. Si on n'agit pas tout de suite, et ben on peut avoir des séquelles. Donc vous voyez que derrière chaque symptôme qui peuvent paraître bénin, et ben il y a quelques signes d'alerte qui doivent faire que doit connaître le patient pour qu'il puisse déclencher le bon secours du SAMU à son médecin généraliste.
Est-ce qu'on doit choisir son service d'urgence en fonction de la pathologie dont on souffre ?
Alors, bien sûr, non, dans la grande majorité des cas et en province. Bien sûr, à Paris, les hôpitaux sont très spécialisés. Et c'est vrai que lorsqu'on a un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, il y a des hôpitaux qui sont plutôt spécialisés dans ces pathologies-là. Mais le problème se pose pas parce que si on appelle le SAMU, c'est l'hôpital qui vient à domicile. C'est pas vous qui allez à l'hôpital, c'est l'hôpital qui vient à domicile.
Alors, on rappelle ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent.
Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. On l'appelle en faisant le 15, c'est un numéro national qui est gratuit, et lorsque vous appelez le SAMU, on va dans les cas extrêmes, vous dépêchez une équipe hospitalière qui va venir chez vous, il va faire un diagnostic et il va vous amener dans le service spécialisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer par les urgences, il va vous amener directement en cardiologie si vous avez un infarctus, en neurologie si vous faites un accident vasculaire cérébral, ou au bloc opératoire si vous avez un problème chirurgical extrêmement urgent. Donc le concept français, c'est pas tellement de choisir son service d'urgence, c'est de dire que si c'est grave, c'est l'hôpital qui va venir carrément chez vous.
C'est-à-dire que le soin commence à quel moment dans ces cas-là ?
Le soin commence dès lors que vous appelez le SAMU. Parce que le soin va commencer aussi par les conseils médicaux qu'on va vous donner au téléphone. Donc, si vous voulez, la prise en charge hospitalière démarre dès lors que vous composez le 15 dans le cadre d'une urgence.
Comment les urgences prennent-elles en compte les embouteillages parisiens et des grandes villes ? C'est une question qui tient beaucoup à Manu qui est sur le plateau et qui finalement dit que ça sert à rien d'avoir des urgences si on doit être ralenti sur le périph.
Bien sûr,
Ou périph ou ailleurs, ou sur les voies sur berge.
Tout à fait. Bien sûr que le trafic, les embouteillages, c'est une contrainte que l'on subit au SAMU, que subissent les pompiers, que subissent les secours en général. On n'a pas le système qui est en vogue aux États-Unis, qui est par exemple les véhicules de secours mettent tous les feux au vert lorsqu'ils arrivent dans les grandes avenues, où on voit souvent dans des grandes villes américaines un couloir qui est dédié au secours, et lorsque la sirène retentit, les véhicules ont pour obligation de dégager aménager cette voie réservée au secours, sinon ils ont une amende, hein, pour laisser le libre passage au secours avec ce système qui met les feux au vert pour laisser passer les pompiers, les ambulances, etc. On n'a pas ça en France. Bon, c'est pas un problème non plus qui est majeur, dès lors que le SAMU le plus souvent déclenche, en cas d'urgence vitale, ce qu'on appelle les premiers secours, les prompts secours, c'est-à-dire les pompiers, qui en général arrivent quelques minutes avant le SAMU, de l'ordre de 5 à 8 minutes après l'appel.
Quand on avale quelque chose, c'est grave, docteur ? Admettons que, par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, on avale des cure-dents, vous savez, qui scellent les toasts. Alors, est-ce qu'on va aux urgences pour ça ?
C'est un grand motif de consultation d'urgence.
Ah ouais.
L'ingestion des objets et l'ingestion accidentelle d'objets. Particulièrement, bien sûr, vous en doutez, chez les enfants. Il y a deux, si vous voulez, il y a deux grandes classes. On ingurgite un médicament, une drogue et de l'alcool de manière accidentelle chez les enfants. Et là, on est plutôt dans le domaine de la toxicologie. C'est-à-dire qu'on va regarder les effets de ces drogues, de ces médicaments, de ces produits qu'on ingère. L'autre partie, c'est d'ingérer des objets solides, comme vous dites, des cure-dents, des piles, des pièces de monnaie. Eh bien, là, il vaut mieux aller effectivement aux urgences ou alors prendre conseil en appelant le 15, parce que parmi tous les objets qu'on peut ingurgiter, il y en a qui sont extrêmement toxiques. Je vous donne un seul exemple, les piles électriques, les petites piles miniatures, c'est des objets extrêmement toxiques qu'on doit aller chercher parce que ça peut faire des perforations au niveau de l'intestin, l'estomac et du tube digestif. Par contre, lorsqu'on ingurgite une petite pièce et qu'elle va dans l'estomac et pas dans la trachée, parce que si ça va dans la trachée, on étouffe. Et là, c'est encore un autre problème, une autre urgence gravissime. Mais une pièce de monnaie, une petite pièce de monnaie qui va dans l'estomac, là, ben, on va attendre qu'elle s'élimine par les voies naturelles. Donc, si vous voulez, mais il faut un avis médical, parce que c'est nous, urgentistes, qui connaissons bien cette problématique et qui vont dire, là, il se passera rien, on va attendre. Et là, non, il faut y aller, il faut aller le chercher.
Qu'est-ce que les séries télévisées ont changé dans l'exercice de votre métier ?
Elles ont énormément changé les choses. Je crois, pour avoir un petit peu d'ancienneté et d'avoir vu les premières séries télévisées, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. La première chose qui est le premier impact des premières séries américaines Urgence, ça a été de faire connaître notre métier au grand public et de faire découvrir.
Donc le métier d'urgentiste finalement.
Exactement. Ouais. Avant, c'était un métier qui n'était pas très connu. On allait aux urgences, on ne savait pas trop par qui on allait être accueilli. Et ce métier, cette médecine d'urgence, cette spécialité d'urgentiste a été réellement accessible et découverte par le grand public grâce à ces séries américaines. Et en plus, ça a un petit peu démystifié toute notre technologie qui peuvent apparaître comme impressionnantes. Par exemple, le choc électrique, la perfusion, l'intubation. On voit souvent les patients qui ont un tube dans la gorge. Ces choses-là, avant, les patients étaient effrayés, ne connaissaient pas. Ouais. Ces séries ont permis un petit peu de démystifier tout notre arsenal thérapeutique et les patients sont plus très étonnés quand on leur parle d'intubation, de choc, de perfusion.
Et le Dr House, qu'est-ce qu'il a changé ?
Mais il a changé ça, c'est-à-dire que
lui va très au-delà du diagnostic, hein, quand même.
Oui, alors bien sûr c'est des concentrés, c'est des concentrés de médecine d'urgence avec souvent des issues qui sont favorables, qui sont pas ce qu'on vit malheureusement dans les services d'urgence. Et puis c'est souvent des concentrés d'urgence vitale. On n'a pas une urgence vitale toutes les 3 minutes dans les services d'urgence. Mais en tous les cas, ça a eu vraiment le mérite de faire connaître notre métier, de démystifier un petit peu toute notre gestuelle, toute notre technologie, et puis peut-être un petit peu de faire aimer au grand public les urgentistes. C'est ce que ça nous, moi particulièrement, ça me ravit.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui se rendent aux urgences pendant les forts pics d'épidémie de grippe et de gastro ?
Leur dire que de toute manière on va s'occuper d'eux.
Ah bon, quand même, donc ils sont parce qu'on s'auto-contamine pas finalement dans les salles d'attente.
Bon, c'est effectivement dans des maladies qui sont très contaminantes, hein, un risque, mais en général les personnes quand elles vont aux urgences sont déjà malades, donc les risques de contamination puisqu'ils sont déjà malades sont faibles, mais c'est pas le gros problème. C'est un petit peu de gérer, et je le vois bien tous les jours, de gérer d'abord l'anxiété des proches, parce que le malade ne vient pas seul, il vient quand c'est les enfants, il vient avec les parents, quand c'est une personne âgée, il vient avec les enfants, quand quand c'est des personnes, on va dire, d'un âge moyen, ben, ils viennent avec des frères, sœurs. Et déjà, nous, une partie de notre métier, c'est aller de gérer les proches, à gérer l'angoisse de ceux qui restent dans la salle d'attente, leur donner des nouvelles, laisser un accompagnant rentrer dans les urgences, dûment identifié, lorsque ça gêne pas les soins. Donc ça, c'est toute une partie du métier. Et essayer de ne pas faire que les personnes deviennent agressives. L'agressivité, si vous voulez, c'est un peu le résultat d'une mauvaise réponse des personnels et puis d'une anxiété qui est disproportionnée par rapport à la pathologie. Donc on a beaucoup de temps à passer avec les patients et les proches pour, si vous voulez, désamorcer des situations de crise.
Et vous avez suffisamment de personnel hospitalier pour ça?
Ah bah non. On n'en a jamais suffisamment, malheureusement. Hein. Malheureusement, dans mon service, et comme souvent dans les services d'urgence, on manque quelquefois de personnel soignant pour faire ce qu'on appelle de l'accompagnement, c'est-à-dire apporter quelques soins de confort qui ne sont pas forcément des soins pour sauver la vie, mais quand même des patients qui vont rester un certain nombre d'heures dans les urgences. Donc il faut leur amener des soins de confort. Je vous donne un exemple, leur apporter un verre d'eau, leur voir s'ils ont bien chaud, si voilà. Bon ben tout ça.
Ça des gens qui ont parfois du mal à vraiment comprendre pourquoi ils ont passé peut-être 3, 4, 5, 6 heures sur un brancard dans un couloir. Hein.
Ben écoutez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. L'encombrement d'urgence, c'est pas tellement les patients qui rentrent aux urgences, mais c'est les patients qui n'arrivent pas à sortir des urgences. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des problèmes d'aval. C'est qu'on a souvent du mal à trouver un lit dans l'hôpital pour faire monter le patient. Quelquefois, on a du mal aussi à obtenir des examens complémentaires, parce qu'il y a un embouteillage au niveau des examens biologiques ou de l'imagerie. Donc tout ceci, c'est plutôt des problèmes de gestion d'aval, plus que des problèmes d'acceptation de patients qui arrivent. Alors évidemment, quand on a ces problèmes-là, les patients qui viennent pour des petits problèmes de santé comme une angine ou comme des problèmes cutanés, eh ben ça se répercute sur ces temps d'attente pour les pathologies qui, somme toute, ne sont pas très graves.
Ça fait plusieurs années qu'on dit que les urgences sont en crise, toujours en crise.
Les urgences ne sont pas en crise. D'abord, c'est un beau métier, c'est un métier que j'ai choisi. Et si vous voulez, c'est une spécialité qui a acquis ses lettres de noblesse récemment, puisque c'est devenu une spécialité comme la cardiologie, la neurologie, etc. Par contre, c'est une spécialité qui est sous tension. D'abord, c'est une spécialité qui est difficile, parce qu'on fonctionne, nous, médecins, infirmiers, aides-soignants, on fonctionne en garde, on travaille la nuit, on travaille les jours fériés, on en parlait tout à l'heure. On travaille 24 heures sur 24. Alors, bien sûr, on se relais. Mais c'est une spécialité, si vous voulez, quand vous alternez des périodes de travail de nuit et des périodes de travail de jour, ben c'est des spécialités qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Et ça, il faut le reconnaître. Et donc, c'est ce qu'on appelle des spécialités en tension. C'est une spécialité qui est une spécialité dure. Et donc, il devrait, à mon sens, bénéficier d'aménagements spécifiques en termes de conditions de travail.
Pas de jour férié pour les urgences. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi des gens qui vont aux urgences parce qu'elles sont seules.
Oui, alors ça c'est l'émission un peu sociale des services d'urgence, des personnes qui sont seules, mais aussi des sans domicile fixe qui cherchent un abri, un endroit, des familles quelquefois qui ne trouvent pas de structure d'accueil, qui viennent aux urgences. Eh bien, écoutez, on les accueille, hein, on n'est pas question de les remettre à la rue, même s'ils n'ont pas de pathologie d'urgence médicale. Quelquefois ils miment une pathologie, mais on voit bien, on sent bien que ce qu'ils veulent, c'est en fait un réconfort social. Eh bien, écoutez, ben moi, dans mon service, je les accueille, je leur donne à manger, et quand je peux leur donner un coin pour passer une nuit parce qu'il fait froid dehors, ben je le fais. C'est pas notre rôle. On se substitue un petit peu à des services qui sont conçus pour ça. Je pense par exemple notamment au 115 qui est souvent débordé.
SAMU social.
On n'est pas médecin pour rien. Moi, je suis médecin dans un service public, et donc j'essaye quand même d'aider ce pourquoi l'État me paye, puisque je suis fonctionnaire. Et donc ma mission, au-delà d'apporter des soins spécifiques de médecine urgence, c'est quand même d'accueillir les personnes en souffrance, qu'elles soient des souffrances morales ou physiques.
Faites combien d'heures par semaine ?
Oh, j'ose pas vous dire, vous me croirez pas.
Ben non, ben, je le répéterai pas, on est entre nous.
Bon, on
dit que les fonctionnaires travaillent pas, donc c'est pour ça.
Oh, je dois être entre 80 et 100 heures par semaine.
Très bien. S'il y a un numéro que vous devez retenir, c'est le
15.
Très bien, le 15, numéro d'urgence. Merci en tout cas Frédéric Adnet d'avoir pris du temps, de votre emploi du temps qui est déjà très chargé, pour parler aux auditeurs de Beurre FM. Votre guide est très bien fait. Y a-t-il urgence? Reconnaître les situations d'urgence médicale, aux éditions Flammarion. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.